Spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De Vive Voix en mode culture et sport. Vous le savez, durant les JO, nous conjuguons le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce 7e épisode, notre invité, c'est l'acteur et metteur en scène de théâtre Patrick Mons. Dans sa pièce La solitude du coureur de fond, le comédien joue sur scène en courant et en mouillant son maillot pour de vrai. Vous allez le voir, avec Patrick Mons, on va parler théâtre, marathon et jazz. De Vive Voix spécial JO, c'est déjà parti. Bonjour Patrick Mons.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Acteur marathonien, ça vous va ou pas?
Oui, ça me va parce que la course à pied fait maintenant partie de ma vie, pratiquement au même titre que le théâtre. Je cours pas dans tous les spectacles que je fais, hein. Mais dans celui-ci, oui.
La solitude du coureur du fond, on va en parler. Alors, votre pièce, hein, c'est vous qui l'avez mise en scène, c'est vous qui jouez ce coureur sur scène. Il faut rappeler quand même que c'est adapté d'une nouvelle de l'écrivain britannique Alan Sillitoe. Ça date un peu, 1959. Pouvez-vous nous faire un peu le pitch de cette nouvelle qui est un petit peu étonnante quand même?
Alors, c'est l'histoire d'un jeune gars qui est en maison de correction dans l'Essex. Et il est repéré par le directeur de la maison de correction comme ayant des qualités athlétiques. Il va y avoir une compétition nationale de course de fond qui va réunir les maisons de correction et ils auront chacun leur poulain. Mmh. Et il est choisi, lui, le jeune héros, pour participer à cette course. Et puis, on lui vend évidemment que c'est une marche vers la rédemption.
Chantage.
Oui, enfin, c'est pas vraiment un chantage, mais en tout cas, c'est une exhortation assez forte à dire que voilà, il va se dépasser et qu'il va aussi rendre service au directeur, par exemple, s'il gagne la course, parce que ça pourrait vouloir dire que le directeur a les qualités requises pour diriger une maison de correction et entraîner ses petits gars vers le chemin de l'honnêteté. Mmh. Et pour lui, qui va s'entraîner, ce jeune gars qui va s'entraîner tous les matins à l'extérieur de la maison de correction, il ne s'évade pas, c'est ce qu'il dit au début, parce qu'il n'a plus que 6 mois à tirer, ce serait absurde. Et ce qu'il découvre, c'est lui-même. Il n'a jamais été en état de solitude comme ça. Donc c'est tout un travail introspectif et il va se forger, il va forger une décision.
Qui va pas dans le sens du directeur de ce centre, c'est ça, de détention?
Absolument pas. Ouais. Et ça, je crois que c'est vraiment une volonté très forte d'Alan Sillitoe. Ça, c'est un texte qui lui tenait beaucoup à cœur. Parce qu'il n'y a pas de rédemption, parce qu'il n'y a pas de rédempteur, en vrai. C'est quelque part, c'est totalement faussé. Et il va faire un geste qui est très difficile à faire, c'est qu'il va se mettre en position de gagner la course. Et puis, il va tellement ralentir que finalement...
Il refuse de gagner
et il va ralentir à la fin. Et il faut que ce geste-là, de ne pas gagner, soit absolument vu du directeur.
Et ce geste-là?
Et ce geste-là, eh ben, c'est de se faire passer sur la ligne. Donc c'est
vraiment... Juste à la ligne, ouais, c'est ça.
Voilà, c'est l'envers de la médaille et en même temps, ça reste une ode au sport.
Ouais. Mais tout en étant dans le refus du culte de la performance aussi, enfin en tout cas obligatoire en ce qui concerne ce gamin-là, quoi.
En ce qui concerne ce gamin et la situation dans laquelle il est.
Bien sûr.
Alors, parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire la même chose. Il n'est pas dans la situation d'un athlète qui vise l'or, c'est très différent. Et en même temps, moi je trouve que dans l'athlétisme, la plus belle chose que peut réaliser un athlète, un des plus beaux gestes d'un athlète, c'est de relever un comparse qui est tombé, par exemple.
La solidarité aussi. Alors, le roman a été adapté, Patrick Mons, au cinéma. Oui. Ça remonte il y a quelques années, on est en 62, par le réalisateur Tony Richardson. Je propose d'écouter un extrait de la bande-annonce avec un son très d'époque.
Courir a toujours été important pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut courir, sans savoir pourquoi, à travers la campagne. C'est peut-être ça, la solitude du coureur de fond.
«
La solitude du corps de fond au cinéma en 62, grand succès populaire, hein, ce film-là,
ouais,
qui a ouvert, j'ai vu la voie quelque part du nouveau cinéma britannique, hein, le free cinéma, mais quelque part en colère contre quoi, contre qui
En colère contre la situation, je pense, qui était faite à la classe ouvrière, notamment. C'est pour ça qu'on peut trouver une filiation effectivement assez directe avec Ken Loach ou des gens comme ça. Il faisait partie, alors je vais le dire avec un accent anglais épouvantable, des Angry Young Men, de ce groupe d'écrivains qui, à l'époque, dénonçait des conditions de vie, mais avec un humour sans aucun esprit revanchard, avec une sorte d'humour de classe, exactement ce qu'on voit dans les films de Ken Loach, mais un humour instinctif, humaniste et presque de survie, parce que dans des conditions extrêmement difficiles, c'est un des meilleurs langages qu'on puisse avoir de survie, l'humour.
L'humour. Ouais. Parlons de vous, puisque vous incarnez sur scène, au théâtre, ce jeune Colin Smith qui court dans sa tête et qui court sur la scène. On vous écoute.
Le coup de feu retentit et j'étais parti. Dans une course de fond, vous pouvez toujours doubler sans que les autres puissent sentir l'odeur de votre hâte. J'ai l'impression d'être à la fois le premier et le dernier homme sur Terre décidé à me battre moi-même avant la fin de la journée. Et si j'en ai été capable, c'est parce que j'ai pensé. Je me suis posé toutes sortes de questions. Et j'ai pensé à ce qu'a été ma vie jusqu'à présent. Tout était si calme et si tranquille, et je ne pouvais plus voir personne. Et j'ai su alors ce qu'était la solitude du coureur de fond.
Sous les applaudissements, Patrick Mons, alors on vous voit courir en maillot sur scène, tout en jouant, tout en... avec ce verbe-là pendant plus d'une heure. Non mais sérieusement, comment on trouve son souffle quand on court comme ça sur place pendant plus d'une heure?
Alors c'est très particulier. Bah, y a eu la rencontre avec c'est la rencontre avec ce texte qui m'a mis à la course à pied.
Ah, d'accord.
Et du coup, j'ai suivi un entraînement. Ensuite, j'ai été coaché. Je suis allé jusqu'au marathon. Je voulais avoir, comme on dit dans la course, la caisse pour pouvoir être assez à l'aise pour développer le texte en même temps que la course. Donc c'est un travail particulier sur la respiration, parce que quand on court, il peut arriver que la voix suive le brinque-ballement du corps. Donc il faut travailler sur le diaphragme. Il y a un souffle particulier, un geste qui est particulier parce que c'est courir sur place, c'est différent.
Un coach sportif, vous aviez
Oui, qui avait fait plusieurs marathons et qui fait... qui s'appelle Patrick Van Den Bosch.
Ah ben voilà, c'est bien
voilà,
nommé.
Voilà, hein. voilà, qui était un garçon extraordinaire, qui est toujours un garçon extraordinaire. Donc j'ai fait mon premier marathon avec lui, on a fini main dans la main. Et c'est une expérience enthousiasmante de faire un marathon, c'est fabuleux. Après, comment reproduire ça sur scène? L'idée, c'est qu'il fallait que les gens rentrent dans la mécanique de la course et qu'on se rende compte de ce que ça provoque dans l'esprit, par exemple, parce que l'esprit vagabonde beaucoup. Et comme le texte d'Alan Sillito est un récit fragmenté qui fait des allers-retours entre le passé et le présent, il y a différentes adresses aussi qu'on peut trouver qui sont très utiles au théâtre, ça reproduit exactement l'état du coureur dans la course à pied.
Ouais.
Quand on va courir, on a cette espèce de relâchement du corps qui fait que l'esprit vagabonde parce que les yeux se posent où ils se posent. Et dans le corps, il y a une mécanique qui se met en place qui aide à penser, moi, je trouve.
Oui, mais il paraît quand même que quand vous avez eu l'idée comme ça de monter de cette pièce, Patrick Mons, on vous a pris pour un fou, non? En
disant, oui.
Je vais jouer, il va y avoir du jazz, et en plus, je vais courir sur place. On a dit, celui-là.
Je me souviens d'un directeur de théâtre qui m'a dit, mais n'importe quoi, tu vas courir et puis tu vas parler. Et puis en plus, il y a un saxophoniste.
C'est saxophoniste, c'est Isaïe Sid, c'est ça?
Isaïe Sid, oui. Alors lui, c'est le frère de toujours, c'est le compagnon d'armes, le terme n'est pas extraordinaire, compagnon de musique et de théâtre, qui est à l'origine du projet avec moi. Donc en ce moment, il enregistre des tas de choses, des tas d'albums sur Fresh Sound, je crois. De jazz. Et c'est lui qui m'a mis sur la voie de Art Pepper.
Alors voilà, parce qu'on entend aussi, il reprend des grands compositions d'Art Pepper. Tiens, on se l'écoute un peu pour se le mettre en oreille.
Mmh.
Alors là, ce qui est drôle en studio, là, Patrick Mons, je vous regarde, vous marchez en même temps, vous courez en même temps. Alors, en quoi le jazz vous aide aussi à faire ce marathonien de scènes au théâtre, en fait?
Bah, c'est une découverte extraordinaire qui est due à Isaïe. C'est que, en fait, quand j'entends l'extrait là, d'Art Pepper, j'entends les balais de la caisse claire. Et j'entends les pieds au sol. Parce que quand la course sur place, les pieds, ils glissent vers l'arrière, ça fait chut, chut, chut. Donc, pendant le spectacle, quand on a répété, on s'est pris pour un combo de jazz. C'est-à-dire que moi, je faisais la batterie et lui faisait les solos dessus. Et on l'a vraiment travaillé comme ça. Et il y a des morceaux qui sont en ternaire, il y a des morceaux qui sont en 6-8, il y a des... Et le texte est vraiment agencé comme une partition sur la musique et certains solos d'Art Pepper qui ont été reproduits à l'identique. Donc c'était un petit travail millimétré qui a demandé beaucoup de temps, mais qui était très très agréable.
On parle à la fois donc de marathon, on parle de théâtre et de jazz. Quand l'acteur que vous êtes se prépare pour jouer le marathonien sur scène, voilà aussi ce qu'on entend dans vos écouteurs. Joe Cocker, Night Call sur RFI. Voilà ce qu'écoute le comédien Patrick Mons, notre invité aujourd'hui, quand vous jouez le marathonien sur la scène du théâtre. En quoi la voix particulière de Joe Cocker vous accompagne aussi dans votre foulée, dans votre souffle?
Alors, ça m'a accompagné, ça fait partie des morceaux qui m'ont accompagné longtemps. C'est un morceau que j'ai écouté quand j'ai joué un personnage qui était c'était aussi un jeune gars... qui se retrouvait sous la pluie, complètement isolé, tout ça. Et avant d'entrer en scène, j'avais une sortie pendant la pièce, et avant d'entrer en scène, je mettais ça. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein de choses dedans, dans le son. Et puis, il pleut.
Il pleut
dans l'arrangement, c'est comme s'il pleuvait. En tout cas, moi, ça me fait voyager. Voilà, ça, c'est très personnel. Hein, maintenant, je n'écoute plus de musique
de
quand
silence.
Je cours. J'ai vraiment besoin de silence et de laisser l'esprit vagabonder. Et si j'ai le texte, des morceaux de texte qui viennent, c'est très bien. Mais surtout, c'est l'état mental. Maintenant, dans mon rapport à la course à pied, c'est vraiment lié au silence. Je cours dans les chemins, dans les bois, et c'est très important. Mais par contre, c'est vrai que la musique garde une place prépondérante dans le spectacle, et particulièrement Art Pepper. Ah oui, il y a quand même un truc que je voulais vous dire par rapport à Art Pepper, c'est que c'était le choix d'Esaïe. Et on s'est aperçu qu'il y a
de votre compositeur. Ouais.
Et on s'est aperçu de choses absolument incroyables, c'est que on a choisi des morceaux en fonction de l'ambiance, évidemment, des différentes étapes du récit. Et le dernier morceau, on s'est dit, c'est celui-là, ça peut pas être un autre. Ça colle tellement bien à la foulée, au ralentissement, tout ça. Et il s'appelle How Can You Lose.
Oui.
Et on s'en est aperçu après. Ça s'appelait Comment peux-tu perdre ?
Ah, pas mal.
Et c'est exactement le moment où il...
Perdre ou gagner. Là, on parle des athlètes imaginaires, hein, des romans. Parlons des athlètes qui ont existé pour de vrai, qui ont marqué l'histoire avec un grand H. On le sait, les JO, le sport, c'est politique. Gros retour en arrière. Là, on est en 1936.
2 août 1914, mobilisation pour la guerre. 1er août 1936, mobilisation pour le sport et la paix. À Berlin, les Jeux Olympiques commencent. Adolf Hitler annonce l'ouverture des Jeux Olympiques.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Ouais, ça file froid dans le dos quand même. Adolf Hitler qui ouvre la cérémonie des JO de 1936. Alors évidemment, tout y est, le défilé des jeunesses hitlériennes, le salut nazi. Hitler qui voulait montrer la prétendue supériorité de la race aryenne. Sauf que voilà, il n'avait pas prévu. Jesse Owens, le sprinter américain qui va en remporter 4 médailles d'or et qui finalement, presque malgré lui, va symboliser la résistance à la propagande nazie en fait.
Oui, hein. Tout à fait.
Ouais. Ça, c'est partie des athlètes qui, encore aujourd'hui, ont été inspirants aussi pour vous ou pas ?
Ah, complètement. Parce que je pense que le parti des athlètes, justement, c'est complètement gigantesque. Jesse Owens, qui est sans armes par rapport à une armée hitlérienne déjà, lui, il est nu. Il n'a rien. Et pourtant... son geste va être plus puissant que ce que pourraient réaliser à ce moment-là toutes les armées du monde. C'est complètement fou. Et il y a... Je suis un peu obsédé par le spectacle, mais...
C'est normal.
Dans le personnage qui s'appelle Colin Smith, il y a ça, il a vraiment la conscience d'être désarmé. Et il y a un moment dans le texte où il dit « Ce combat sans armes, c'est pas très compliqué. » Parce qu'en fait, il va se retrouver dans la dernière ligne droite face aux gardiens armés, le truc. Et lui, il est à poil.
Il ne lui reste que ça,
son corps. Et c'est avec son corps qu'il va s'adjuger la plus belle des victoires, en fait. Et ça, c'est très puissant. Et c'est vrai que Jesse Owens, il y a une histoire extraordinaire parce qu'en fait, il a participé au saut en longueur. Et quand il a participé au saut en longueur, il s'est trompé sur les marques. Il n'était pas très bon. Et c'est un athlète allemand qui est venu lui dire « Tu devrais prendre appui sur un repère un peu avant. » Il l'a suivi. Hitler a assisté à l'échange entre Jesse Owens et cet athlète. Et Jesse Owens a gagné le saut en longueur grâce à l'allemand. Donc quand on dit les athlètes, le parti des athlètes, alors là, c'est une puissance colossale, quoi.
C'est ça. Et forcément, les athlètes, le marathon a inspiré ô combien de cinéastes. Et quand on pense à ceux qui courent, sans jamais trop savoir où est-ce qu'ils vont, on pense au film Forrest Gump, forcément. Ah, Forrest Gump qui va arriver dans quelques instants.
Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidais d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville.
Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de la sécurité.
Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Et une fois arrivé là-bas, puisque j'étais déjà allé si loin, Autant faire demi-tour et continuer ma course. Et je suis allé jusqu'à un autre océan. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant faire demi-tour et continuer encore.
Forrest Gump, réalisé par l'Américain Robert Zemeckis en 1994 avec Tom Hanks, hein, qui joue ce simple d'esprit qui n'en finit pas de courir à travers les événements historiques, d'ailleurs, des années 50 aux années 80, avec cette réplique culte, cours, Forrest. Oui. En quoi ce film est inspirant aussi pour vous? Parce que pour monter ce spectacle, on l'a vu, hein, des événements historiques, des bouquins, oui, des athlètes imaginaires et le cinéma, forcément.
Oui, le cinéma. Ce film est inspirant pour une raison très, très personnelle. C'est qu'en fait, il y a une séquence qui est dans le début du film où il court avec des attelles. Mmh. Il a des attelles. Et donc, il ne peut pas courir vite. Et à un moment où ça s'accélère et les attelles volent en l'air et il se libère. Comme un corps se libère de son carcan quand on arrive à courir suffisamment. Et bon, moi, c'était mon frère qui était handicapé, avait ce genre d'attelle quand on était petit. Et d'ailleurs, on était assez nombreux, donc on partageait souvent les lits. Donc j'ai souvent senti contre mes jambes ces attelles. Et quand j'ai vu ce film, ça m'a... Oui, ça m'a...
Vous dites, c'est un peu aussi par rapport à mon frère que je cours aussi, non?
Oui, parce que j'ai toujours un peu imaginé ça, parce que comme il était handicapé, je pensais à lui dans la liberté que je pouvais avoir.
Et que lui n'avait pas forcément.
Et lui non, donc c'était quelque part, il y avait de ça, c'était en son nom fraternel.
Vous suivrez les Jeux paralympiques d'ailleurs?
Oui, bien sûr. Ouais, oui, bien sûr, parce que c'est vrai que les Jeux paralympiques, on en parle beaucoup, mais il n'y aura pas autant de monde devant les écrans.
Ça sera beaucoup moins médiatisé aussi.
Oui, c'est clair, c'est clair.
Le sport, c'est forcément aussi tout le romanesque de la revanche sociale, de l'ascension sociale. Vous parliez de Ken Loach tout à l'heure. Bah justement, tiens, un entretien de Ken Loach avec son acteur, le footballeur Eric Cantona, dans son film Looking for Eric, et ça en est en 2009.
Je pense que le foot peut donner aux gens quelque chose qui va plus loin que la politique, dans la mesure où il donne confiance à une foule et aux supporters. Ça leur donne un sentiment d'appartenance et de solidarité envers l'équipe.
Nous, en tant que joueurs, en tous les cas, on pratiquait ce sport comme réalisant un rêve d'enfant, quoi. Donc après ce qu'en font les gens, ou certains artistes, ou certains journalistes, ou certains philosophes, ça, je trouve ça très intéressant, quoi. Mais moi j'ai vécu ça plutôt, j'étais en plein dedans, quand j'étais joueur, je vivais de l'intérieur, quoi.
Once said, leave your wife, you can change your wife, change your politics, change your religion, but never, never can you change your favorite football team.
I think football...
Je pense que le foot est un moyen pour les gens de vraiment exprimer leur émotion. L'espérance, le désespoir, la tristesse, le triomphe. Je pense que c'est très important pour beaucoup de gens.
Voilà, pour Ken Loach, le foot, c'est le sport des classes ouvrières, mais encore aujourd'hui, hein, pour lui, il dit voilà, quoi, c'est un signe d'appartenance sociale, mais surtout d'espérance bien plus fort que la politique. C'est aussi votre avis, Patrick Mons?
Ah oui, bien sûr, c'est le sport le plus, enfin, c'est le sport au monde probablement le plus populaire, et celui qui fait le plus rêver aussi, mais il y a quand même très très peu d'élus. En tout cas, c'est un endroit de communion. Moi, perso, je suis plus rugby, hein, mais
vous êtes plus rugby. Ouais. Pourquoi? L'esprit de mêlée, plutôt. L'esprit de mêlée,
voilà.
Comment vous expliquez cela? Voilà, que dans la culture anglo-saxonne, le sport, en tout cas, c'est héros de cinéma, un peu moins peut-être dans la culture française. Comment vous l'expliquez, ça?
Beaucoup moins. Mais je pense que c'est une question peut-être d'éducation aussi, ouais. Des universités américaines. C'est des viviers de champions pour des raisons simples, c'est que je pense que le sport est beaucoup plus valorisé. Il y a deux choses qui ne sont pas si valorisées que ça, c'est le sport et la culture dans l'éducation
comme
en général.
Comme par hasard.
Et c'est... Et donc, c'est un vrai bonheur de les réunir, d'ailleurs. Ouais. Tiens.
Ouais. Mais, bah, c'est ce que vous faites, vous, sur voilà. scène.
Oui, ouais, c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça, parce que le geste sportif a quelque chose à voir avec le geste théâtral. Il faut le travailler, il faut le répéter, on travaille pour la beauté du geste.
Sportif et le geste théâtral, oui.
Bah, oui, parce qu'il se répète de la même façon. On a cette histoire de l'entraînement. Une pièce, ça ne se monte pas en 10 jours, à part certains exploits. Donc,
c'est un marathon, quelque part.
C'est un marathon, bien
bah
sûr.
Oui,
bien
vrai.
Sûr. C'est un marathon, et puis il y a une ferveur, parce qu'à un moment, on n'arrive pas dans des stades, mais dans des salles de spectacle, dans des théâtres.
Oui, mais vous, c'est marrant, parce que je crois que vous avez joué dans un stade, votre
pièce
de
théâtre. Oui, tout à fait. On a joué en partenariat avec la FFA, on a joué au stade Jesse Owens, qui est un des plus grands stades couverts d'Europe.
La Fédération française d'athlétisme.
Oui, voilà. C'est ça. Le stade couvert Jesse Owens, avec Pierre-Antoine Garcia, qui avait organisé ça. C'était extraordinaire, parce qu'on avait reproduit dans le théâtre, décidément, dans le stade.
Qui est une forme de théâtre.
Qui est une forme de théâtre, bien sûr. C'est tout à fait ça. Et il y avait des ponts-lumière, des rideaux, une enceinte de théâtre. Et à la fin de la pièce, le rideau de fond s'ouvrait et le stade s'allumait.
Et là, on dit quoi ? On réunit à la fois le public du théâtre et le public du sport ?
Ah, moi, je crois, parce que la course à pied a ceci de particulier, qu'elle concerne toutes les couches de la société. C'est complètement fou. Quand on fait un marathon, il y a beaucoup d'écrivains, de journalistes, d'auteurs aussi, d'ailleurs, qui courent. C'est quand même une forme de drogue, hein, c'est une forme d'addiction. Ouais. Donc, ça peut aider pour écrire. Ça, c'est sûr. Ouais. Aller courir le matin, ça remet les idées en place et ça booste le cerveau et le mental, ce qui n'est pas rien.
Ouais, le mental du comédien et le mental de l'athlète. Hein.
Oui, voilà.
Ouais. Alors, dites-moi, Patrick Mons, comme à chacun de nos invités, un petit quiz pour savoir quel type d'état d'esprit vous êtes, vous, dans la vraie vie. Est-ce que pour vous, vous préférez les sports collectifs ou les sports individuels ?
Individuels qui mettent en marche le collectif.
Bah, c'est marrant parce que vous n'êtes pas le premier à me dire ça alors.
Ah, c'est vrai.
Donc tout seul, on est plus fort à plusieurs.
Tout seul au nom des autres.
Ah, c'est pas mal ça. Mmh. Joli, ça là, je la note. L'essentiel pour vous, c'est de gagner ou c'est de participer ?
Ah non, c'est de participer, mais d'aller au bout de soi.
Ah, ce qui n'est pas la même chose que de gagner alors.
Non, pas forcément gagner,
ouais.
Mais participer à fond.
C'est ça, participer à fond. Un acteur, c'est quoi ? C'est un leader, c'est un compétiteur ou c'est un coéquipier ?
Alors, quand je suis comédien dans une distribution, je suis un coéquipier. Et quand je suis metteur en scène, je suis leader.
Ah, et vous aimez les deux casquettes, hein ?
J'aime les deux casquettes. J'aime être au service d'eux et puis diriger une équipe.
C'est Charles Berling qu'on a eu comme invité qui nous dit que l'esprit de troupe de théâtre, c'était l'esprit justement de mêlée du rugby. C'est un peu votre avis aussi ?
Ah oui, je suis complètement d'accord. Oui, c'est un des derniers endroits où l'aventure humaine, où on participe à un projet collectif. Et en principe, quand l'état d'esprit est bon, il est très souvent excellent. C'est que personne ne juge personne parce que chacun arrive avec ses particularités. Et c'est avec ça qu'on fonde une pièce, une dramaturgie et un groupe.
Dernière petite question, c'est quoi la plus belle valeur du sport à vos yeux en tant qu'acteur et en tant qu'homme, tout simplement ?
Alors, je dirais un mot qui revient constamment dans la pièce, dans le texte d'Alan Silito, c'est l'honnêteté.
L'honnêteté.
Envers soi et envers les autres.
Ah ben c'est très joli. Merci beaucoup Patrick Mons, ça a passé très très vite avec
oui,
vous. La solitude du coureur de fond, c'est l'affiche du Funambule de Montmartre à Paris à partir du 5 septembre pour tous ceux qui nous écoutent à Paris. Merci à vous.
Merci.
Grand merci à toute l'équipe olympique, Sophie Jana à la réalisation, Mehdi Jaziri à la rédaction. On se retrouve demain à la même heure avec l'écrivain Daniel Picouli pour parler cette fois-ci de foot, de littérature et de rêve d'ascension sociale. À demain.